Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelles dispositions pour la rentrée scolaire 2024-2025 sur le thème du Grand Dialogue de ce soir? Plus que deux semaines pour la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale a fixé la rentrée au mardi 1er octobre 2024. Cependant, cette reprise de cours se fera sur fond des risques d'inondation, d'occupation des salles de classe par des sinistrés, de fermeture des classes au nord et au centre, au sud du pays, du fait de l'insécurité des enseignants. Assassinés au mois d'août dernier et des écoles catholiques à bord de fermeture pour non-paiement de la subvention de l'État. Alors que 1791 écoles étaient fermées en fin avril dernier, affectant plus de 537 300 enfants et 10 746 enseignants selon l'UNICEF. Voilà le décor de la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. Qu'est-ce que faut-il pour réussir dans ces conditions année apaisée? On en parle dans ce Grand Dialogue avec nos invités. Issoufou Touré, directeur national de l'enseignement fondamental, Aboubakar Abdou Touré, membre de la synergie de l'éducation des syndicats signateurs du 15 octobre 2016, et Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La rentrée scolaire 2024-2025 sera effective dans quelques semaines sur l'ensemble du territoire national. Tout d'abord, monsieur le directeur national de l'enseignement fondamental, Issoufou Touré, quel bilan faites-vous de l'année précédente?
Merci beaucoup, monsieur Maïga, pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la rentrée scolaire en général, mais surtout de la rentrée scolaire précédente. L'année scolaire précédente au niveau de l'enseignement fondamental, dont je suis le directeur, s'est très bien déroulée. Nous avions commencé l'année scolaire à date et nous avons pu normalement tenir les cours, organiser les examens. Et au compte de l'année écoulée, je pense que c'est un satisfecit général. Nous sommes assez heureux de dire que l'année scolaire précédente s'est très bien passée.
Peut-on dire que les attentes ont été comblées?
Absolument. Les attentes ont été comblées dans la mesure où nous n'avons pas eu de difficultés majeures quant à la conduite de l'année. Les acteurs de l'école ont très souvent échangé et l'année s'est passée sans difficulté majeure. Nous n'avons pas connu de grève, l'année s'est bien déroulée et nous avons pu tenir les examens à date, ce qui est quand même une prouesse qu'il faut noter. Depuis 2-3 ans, nous arrivons à faire les examens à date, nous arrivons à tenir l'année scolaire comme cela se doit, et à l'échelle du pays, tout se déroule très bien. D'accord. Donc nous sommes satisfaits.
D'accord. Le directeur national s'est dit satisfait de la rentrée précédente. Alors, au niveau des parents d'élèves, la Fédération des parents d'élèves étudiants du Mali est-elle satisfaite, comme le directeur de l'enseignement fondamental, du bilan de l'année précédente?
Bien, merci Maïga. Je salue nos auditeurs et téléspectateurs. Je salue mes co-débatteurs, M. Touré, les deux Touré. Et je présume que le débat il sera très bon cet après-midi, puisque vous n'avez que des Touré sur le plateau. Alors, je m'en vais vous dire que nous avons éprouvé les mêmes satisfactions que la Direction nationale de l'enseignement fondamental, nous, parents d'élèves. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, ça fait deux ou trois ans, quand même, trois ans pratiquement, que nous n'avons pratiquement pas de perturbation au niveau des écoles. Donc, les cours sont donnés normalement, les examens se tiennent à date. Donc, vraiment, on peut dire qu'il y a beaucoup d'accalmie maintenant dans le monde scolaire, à part peut-être quelques difficultés au niveau supérieur. Mais au niveau, en tout cas, du fondamental et du secondaire, je pense qu'on peut être satisfait.
Quand vous dites quelques difficultés au niveau supérieur, vous faites référence à quoi?
Bon, au niveau du supérieur, je suis membre de la Commission nationale d'attribution des bourses. Je sais qu'il y a quelquefois quelques petits problèmes au niveau du supérieur, à ce niveau-là. Soit que les étudiants, peut-être, ne se sont pas pris à temps pour constituer les dossiers de bourse. Il y a des cas comme ça. Donc, c'est ce que j'appelle peut-être quelques petits problèmes. Ou bien, au niveau des professeurs, je sais qu'il y a 2 ans à peu près, il y avait une série de grèves, de revendications qui ont fait que les cours n'ont pas pu se tenir régulièrement.
D'accord. Au cours de l'année précédente, qu'est-ce qui n'a pas marché selon votre compréhension?
Bon, je n'ai pas noté de difficultés vraiment majeures qui puissent mettre en danger le déroulement de l'année scolaire, à mon avis.
Monsieur le syndicat de l'enseignement fondamental, le syndicat des enseignants partage-t-il ce bilan de satisfaction selon le directeur et le parent d'élève?
Avant de répondre, j'ai dit bonsoir d'abord à nos téléspectateurs. Bonsoir à vous également, Maïga, de nous avoir permis ce plateau pour vraiment échanger sur l'école. Et par rapport à la question, peut-être oui, parce qu'en réalité, nous sommes des acteurs majeurs de cette satisfaction. Parce que si toutefois, nous, on n'était pas vraiment dans la dynamique, je pense que ça allait être très compliqué. Mais heureusement, et le syndicat, depuis un moment, et vous le savez tout comme nous, ont quand même jugé utile de rester vraiment en marge de certaines revendications. Et depuis les sanctions contre la CEDEAO, nous avons quand même pris la lourde décision, n'est-ce pas, un moment de sursoir carrément à nos revendications parce que le pays était en difficulté. Donc nous sommes dans la dynamique. Et que c'est cette dynamique qui nous a permis, n'est-ce pas, de faire bas la terre afin de maintenir le cap pour que vraiment, vu les difficultés et tout ce qui s'ensuit, et cela nous a amené, n'est-ce pas, à ne pas aller à des revendications qui peuvent être des sources de perturbations pour l'école. Donc, du coup, cette satisfaction-là, nous la partageons et que vraiment, c'est le résultat de nos efforts aussi.
Yeah. Donc, du coup, donc c'est sommes... à l'actif des enseignants.
Voilà, mais bien sûr. Bien
et non du ministère.
Bon, ça, c'est. En tout cas, ce qui est sûr, sans les enseignants, il n'y a pas d'école. Donc, le ministère et autres, avec les enseignants, nous sommes tous des partenaires. Nous sommes des partenaires. Donc, du coup, c'est à l'actif de tout le monde. Est-ce que vous voyez, quand ça marche pour tout le monde. Nous ne pouvons pas être en marge, tout comme eux, ils ne peuvent pas être en marge. Donc, c'est un ensemble. Et c'est ça qui fait que, bon, voilà, nous constituons un tout. Et si toutefois nous sommes ensemble, ce n'est que la réussite.
Moi, je voudrais quand même réagir. C'est à l'actif, c'est vrai, de la communauté éducative. Mais en toute chose, il y a un niveau stratégique très important. Et ce niveau stratégique, c'est le ministère de l'Éducation. Donc s'il y a un bilan, réfléchir en termes de qui est comptable du bilan ne me paraît pas être à l'endroit. C'est-à-dire qu'il s'agit juste de reconnaître que sous le lit du ministère de l'Éducation, la communauté éducative a réussi l'année scolaire passée. Donc nous travaillons ensemble et nous, notre dynamique, c'est une dynamique partenariale. C'est-à-dire nous nous disons que nous sommes des partenaires, l'école et la chose qui appartient à tous, à la communauté. Et nous, nous avons un rôle stratégique de coordination des partenaires. Et ensemble, nous avançons. Nous avons des succès, nous les revendiquons, mais nous ne les revendiquons pas tout seuls. C'est des succès communs, c'est des succès partagés. Et ensemble, je crois qu'avec la communauté éducative, nous allons continuer à avancer pour que notre pays soit un pays fort d'abord par l'école, où tous les enfants du pays auront accès à une éducation équitable, juste, de qualité, et avec tous les partenaires de l'école. Je tenais quand même à apporter cette précision-là.
D'accord. Le parent d'élève disait tout à l'heure que cela fait 3 ans que l'école est plus ou moins stable. Qu'est-ce qui fait cela? Du fait que quand on regarde le déroulement des années précédentes où il y a assez de manifestations, des grèves par-ci, par-là, par les élèves, par les enseignants, qu'est-ce qui a amené cette stabilité ces 3 dernières années?
Ok, merci beaucoup, M. Mega. Je pense que je l'ai dit avant le parent d'élève qui a quand même renchéri à ma suite pour reconnaître qu'il y a des changements de qualité, et que depuis 2-3 ans, le contexte général de l'école s'améliore et l'école fonctionne mieux. Alors, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle écoute, il y a un sens du travail collaboratif, il y a un sens du partenariat. De plus en plus, nous parlons avec nos partenaires, on se réunit autour des questions et nous essayons ensemble d'anticiper sur les problèmes. Donc, il y a un dialogue permanent entre nous et nous essayons d'être dans la co-construction pour qu'ensemble, on puisse aborder les problèmes, échanger, même échanger sur les problèmes les plus difficiles, ce qui peut fâcher, ce qui peut ne pas fâcher. Donc il y a une nouvelle approche. Et cette approche-là, depuis 2-3 ans, a changé. Les partenaires sociaux de l'école sont nos partenaires. Nous anticipons sur les difficultés et ensemble, nous essayons de trouver des solutions. Donc c'est de nouveaux paramètres, une nouvelle de nouvelles variables et aussi la volonté des autorités actuelles d'être à l'écoute des partenaires, de tout ce qui se passe pour que l'école puisse sortir des contingences. Mmh. C'est vrai que nous avions beaucoup de difficultés auparavant, des difficultés d'ordre économique, des difficultés qui nous sont imposées, mais nous allons au-devant des difficultés et nous essayons d'anticiper. Je pense que c'est ce dialogue, cette volonté d'écouter et de travailler dans la franchise qui explique un peu les résultats que nous avons.
D'accord. Merci. La rentrée scolaire est prévue au 1er octobre 2024. Dans quelles conditions cette rentrée se prépare?
Merci pour cette question, M. Maïga. Nous avons solennellement, en tant que ministère de l'Éducation nationale, décidé de revenir à la norme, à ce que les années scolaires commencent à date, c'est-à-dire le 1er octobre, et qu'on puisse au moins avoir le temps d'apprentissage nécessaire pour les apprenants. Donc c'est ce qui fait que la rentrée est fixée au 1er octobre. Nous avons fait un certain nombre d'actions, de démarches qui se traduisent par des courriers que nous avons adressés à nos structures déconcentrées. Nous avons écrit à tous ceux qui ont un rôle dans la gestion de l'école pour les amener à se retrouver autour de l'école dans le cadre de rencontres partenariales pour préparer la rentrée. Donc cela est fait. Nous avons aussi au niveau du ministère évalué un certain nombre d'éléments nécessaires à la rentrée et je pense que nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour que matériellement la rentrée puisse être bien effective le 1er octobre. Dans ce sens-là, nous envisageons une activité que nous appelons campagne de retour à l'école, que nous allons organiser le 20 septembre prochain au CICB avec tous les partenaires de l'école pour montrer à la communauté éducative, mais à tous les Maliens, que l'école est nécessaire, elle est importante, elle doit être au cœur des enjeux. Et ce jour-là, nous allons avoir une grande activité sous la présidence des plus hautes autorités de l'État. Et lors de cette cérémonie que nous dénommons campagne de retour à l'école, nous aurons la distribution de kits scolaires qui nous sont mis à disposition par l'État, mais aussi par nos partenaires, pour tous les enfants maliens, principalement les enfants vulnérables. Et nous aurons un certain nombre d'actions pour que la rentrée se passe bien, pour que tous les enfants maliens puissent avoir le droit d'aller à l'école et exercer leur droit à l'éducation. Donc, après cela, nous aurons aussi une célébration officielle de la rentrée le 1er octobre où on aura tous les acteurs gouvernementaux qui seront certainement sur le terrain pour montrer l'importance que le gouvernement de la République accorde à cette rentrée scolaire. Donc les préparatifs vont bon train, les instructions ont été données. Sur le plan matériel, nous travaillons à ce que le 1er octobre, tout soit en place pour que les enseignants et les apprenants puissent reprendre effectivement les cours.
D'accord. Campagne de retour à l'école, une première au Mali, c'est, on peut dire que c'est une première, n'est-ce pas?
Bon, sous cette forme, à ma connaissance, c'est une première, telle que l'a dit le directeur tout à l'heure. Je ne me souviens pas avoir vu une telle cérémonie encore. Depuis, j'ai enseigné, je suis à la retraite depuis 15 ans, je n'ai pas vu une cérémonie comme ça. Donc, c'est tout à l'honneur du ministère de l'Éducation. Et je précise ici qu'il faut les saluer parce que chaque rentrée scolaire, nous avons quand même des réunions préparatoires avec les deux ministres en charge de l'éducation. En tout cas, les parents d'élèves ont chaque fois des réunions préparatoires pour la rentrée. Hormis même les préparatifs de la rentrée, nous bénéficions de leur assistance financière parce que nous sommes subventionnés par les deux ministères en charge de l'éducation pour le fonctionnement.
Par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur.
Voilà, les deux ministères en charge de l'éducation. Donc c'est une subvention qui nous a été accordée parce que le gouvernement de Alpha à l'époque a pris un décret, le décret 367, c'était depuis 2001, qui reconnaissait les associations de parents d'élèves comme étant d'utilité publique. Et à ce titre, on bénéficie de subventions. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est 5 millions par an. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, c'est 1 250 000. Bon, je dois reconnaître que, compte tenu des difficultés du moment, ça fait bientôt 5 ans que nous n'avons plus ces subventions-là. Nous le comprenons parce que le gouvernement a vraiment d'énormes priorités, il y a beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas désespérés pour autant parce que nous avons eu à rencontrer le Premier ministre en août 2023. Il nous avait fait la promesse de subventionner la Fédération des associations de parents d'élèves. Parce que nous avons un siège, il faut payer le gardien, il faut payer les charges récurrentes du siège, l'électricité, l'eau et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi les subventions là s'expliquent.
Voilà. Il disait tout à l'heure qu'il y aura également des distributions des kits aux enfants invulnérables. Est-ce que ces critères enfants invulnérables vous convient?
Bon, c'est comme ça que ça devrait être parce que les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Chacun sait que, bon, pendant que d'autres peut-être arrivent même à inscrire leurs enfants dans les écoles privées qui coûtent extrêmement cher, il y en a qui n'arrivent même pas à avoir le quotidien, c'est-à-dire le repas. Donc si on a soin de prendre les enfants vulnérables et de les prioriser, je crois que ce n'est que justice. Cela me convient parfaitement.
D'accord. À chaque rentrée des classes, est-ce que les enseignants ont tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de l'année scolaire?
À chaque rentrée scolaire, est-ce que les enseignants ont tout ce qu'il leur faut?
Oui.
Bon, je dirais oui à peu près. Et ce qu'il leur faut, c'est quoi? C'est aujourd'hui, ces derniers temps, avec l'insécurité qui prévaut, avec le problème d'inondation et l'accessibilité à certaines localités, ça pose d'énormes difficultés. Donc, dire que les enseignants ont tout ce qu'il faut, bon, on ne peut pas quand même se permettre de le dire. Parce que tout ce qu'il leur faut, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut avoir tout ce qu'il nous faut pour réellement...
Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement?
Bon, ce qu'il nous faut, c'est les mesures d'accompagnement, par exemple pour ceux qui sont dans des localités d'accès difficile. Ensuite, les problèmes d'insécurité, parce que là, c'est vraiment la vraie problématique aujourd'hui, parce que l'enseignant est pris pour cible aujourd'hui.
Nous et allons en parler.
Voilà, donc c'est des situations. Donc, si... sur le plan matériel, bon, l'enseignant, c'est une préparation psychologique, l'enseignant est toujours prêt à servir. Donc, tout ce qu'il leur faut, c'est de fixer les dates aux dates au moment prévues et respecter les dates. Donc, une fois que les dates sont déjà prévues et que les enseignants sont au courant de ces dates, tout le monde se prépare pour la rentrée. Donc, il n'y a pas une prise spécifique ou bien spéciale de l'enseignant par rapport à la rentrée. Il n'y en a pas. En ce que je sache, dire que bon, voilà, on doit faire ça, 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 non. L'enseignant se prépare, c'est son métier et il l'exerce comme ça se devait.
D'accord. Voilà. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous parlez de matériel, c'est-à-dire que tous les matériels didactiques et de fournitures scolaires ne sont pas totalement en prêt pour cette rentrée scolaire.
Je ne parle pas très bien Bambara, mais je sais que les Bambara disent que lorsque vous remplissez votre bouche de couscous, je crois,
il faut avoir suffisamment de salive.
Voilà, de salive. Donc, je pense que l'État est suffisamment averti. Et lorsque l'État fixe la date de la rentrée, c'est qu'en amont, l'État a pris les dispositions idoines pour pouvoir opérer cette rencontre. Donc, je peux affirmer que le matériel minimal qu'il faut pour pouvoir commencer le travail, les intrants nécessaires à la reprise seront mis à disposition et l'État, de façon régalienne, travaillera à ce que les écoles puissent fonctionner. Et sur ce plan, je l'ai dit lors de la campagne, lors du lancement de cette campagne que nous appelons campagne de retour à l'école. Nous aurons une distribution de kits scolaires pour 50 000 élèves. Ce sont des kits qui nous sont mis à disposition par des partenaires, mais aussi qui sont des kits acquis sur les ressources de l'État.
Ces 50 000 élèves, c'est sur l'ensemble du territoire national.
C'est sur l'ensemble du territoire national avec le focus sur les enfants vulnérables. Quand nous disons des enfants vulnérables, c'est que nous avons des compatriotes qui aujourd'hui font face aux difficultés, aux inondations. Et le responsable des parents d'élèves l'a dit, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. Et l'État, lui, fait tout pour être dans l'équité en privilégiant les Maliens les plus démunis. Les plus démunis. Donc nous allons tout faire en tant qu'État pour que ces kits parviennent aux enfants qui en ont réellement besoin dans les zones vraiment où aujourd'hui le besoin est le plus grand. Maintenant, tous les autres intrants qu'il faut pour reprendre, autrement dit, au niveau où on donne des cahiers, au niveau où on donne de la craie, où on donne, nous ferons ce qui est de notre devoir pour que la rentrée puisse être effective le 1er octobre.
50 000 enfants défavorisés vont bénéficier de kits scolaires. Alors, ils seront combien d'élèves et enseignants qui reprendront le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national cette année?
Alors, moi, je parle, chacun prêche pour sa chapelle. Donc, moi, je parlerai de l'enseignement fondamental que je connais. L'enseignement fondamental, c'est un peu plus de 3,5 millions d'élèves. C'est à peu près plus de 20 000 écoles. C'est plus de 20 000 écoles, un peu moins de 22 000 écoles. C'est 100 000 enseignants et c'est sur 1 240 000 km². Donc, nous sommes le maillon ou le segment le plus important du système éducatif. Donc nous avons, je l'ai dit, beaucoup d'élèves, c'est des millions d'élèves, c'est des centaines de milliers d'enseignants qui vont retrouver le chemin de l'école le 1er octobre. Donc tout ce monde, tout ce personnel-là devra être préparé pour attaquer la nouvelle année et nous travaillons à offrir les conditions les meilleures pour que les enfants puissent retrouver leurs droits à l'éducation et retrouver le chemin de l'école.
Cette rentrée que nous évoquons, c'est dans quelques semaines, et les écoles fondamentales, secondaires et des instituts de formation de maîtres sont toujours occupés par des sinistrés d'inondations un peu partout dans les pays. Des dispositions ont-elles été prises pour permettre à ces occupants-là de sortir de ces écoles avant le 1er octobre 2024?
Voilà. Merci, M. Mega. Nous maintenons la date de la rentrée au 1er octobre. Ça veut dire que nous prendrons les mesures qu'il faut pour qu'à cette date, les écoles soient prêtes pour accueillir les enseignants et les apprenants. Je vous ai dit que nous avons plus de 20 000 écoles fondamentales. Sur plus de 20 000 écoles, les cas qui nous sont remontés d'écoles inondées, inondables, occupées ne font même pas 10% de ces écoles-là. Voilà pourquoi nous, nous maintenons la rentrée au 1er octobre. Nous avons des zones sur lesquelles il y a de l'inondation et nous sommes de cœur avec tous nos frères et tous nos parents maliens affectés par ces cas d'inondation. Mais nous disons que nous travaillons à ce que l'école reprenne le 1er octobre et en lien avec nos partenaires et aussi les structures déconcentrées de l'éducation ainsi que le niveau décentralisé. Et nous travaillons à ce que l'école reprenne le premier. L'école est décentralisée et les responsables au niveau local ont un rôle. Je vais parler des collectivités territoriales et avec ces collectivités et nos collègues du niveau déconcentré ainsi que nos partenaires, nous allons travailler à ce que l'école reprenne le premier. Il y a des écoles inondées, il y a des écoles occupées, mais la majorité des écoles de notre pays restent aujourd'hui des écoles qui peuvent être ouvertes le 1er octobre. Donc notre combat, c'est vraiment de tout faire pour que les sinistrés puissent être mis dans des conditions de dignité, puissent être relogés certainement dans d'autres abris en lien avec les collectivités territoriales, mais c'est aussi avec nos partenaires trouver les moyens pour qu'avant le 1er octobre, toutes les classes puissent être prêtes et puissent accueillir les élèves.
D'accord. Voilà. Est-ce que les parents d'élèves sont optimistes quant à la rentrée scolaire à la date indiquée, notamment le 1er octobre, au regard de ces écoles occupées au nord, au centre et au sud et à Bamako également, par des sinistrés et des déplacés?
Bon, je crois que nous sommes on ne peut plus optimistes. Ce n'est pas nouveau, hein. Vous savez, ce phénomène d'inondation, chaque année, c'est récurrent. Ça arrive chaque année, mais on a toujours, le ministère a toujours su, avec les partenaires, prendre les dispositions idoines pour que les classes fonctionnent. Ça, nous n'avons pas d'inquiétude particulière, vraiment, dans ce domaine-là. Nous sommes optimistes.
Et quant à l'hygiène de ces écoles, quand on regarde des déplacés ou des sinistrés qui sont dans ces écoles, quand ils vont en sortir, certainement il y aura des déchets qui seront restés. Quant à l'hygiène, est-ce que vous estimez que des dispositions ont été déjà prises pour nettoyer toutes ces écoles?
Bien. Je vais prendre le cas spécifique de Kalabankoro où je réside. Il y a des sinistrés là-bas, à l'école Mamadou Kunta précisément, que je connais, au bord du Goudron. Et la direction de l'école a été très, très claire avec les municipalités, avec la mairie. On a dit qu'il n'y a pas de problème, on va loger ces sinistrés-là. Mais la mairie promet vraiment de faire la désinfection et tout des locaux à temps pour que la rentrée puisse se faire dans les conditions les meilleures. Ça, c'est déjà acquis, en tout cas pour le cas de Kalabankoro que je connais. Et je présume que dans beaucoup de localités, ça doit être comme ça. Les collectivités devraient prendre, parce qu'on abrite les sinistrés, d'accord, c'est normal, ce sont des Maliens, ce sont nos frères, nos compatriotes qui sont dans des difficultés. C'est en ce moment qu'ils ont besoin vraiment de l'aide de l'État. Mais il va sans dire que, bon, quand ils vont quitter les locaux, que les locaux soient remis quand même propres, hein, à l'école. Parce que en priorité, ça appartient aux élèves.
D'accord. Okay. Moi, je voulais sur ce point aussi aller dans le même sens que M. Touré, dire que l'État lui-même a adopté en octobre 2023 un plan stratégique national eau, hygiène, assainissement à l'école. Mm-hmm. Et c'est pour dire que les questions d'eau et d'hygiène et d'assainissement sont des questions très importantes pour nous. Parce que lorsque vous mettez les enfants dans un environnement, il faudrait que l'environnement soit sain et qu'il puisse être dans des conditions sanitaires minimales pour apprendre. Donc dans ce sens-là, nous sommes très regardants sur ces questions. Et je pense qu'en lien avec les collectivités territoriales et nos partenaires, nous prendrons toutes les décisions, toutes les dispositions pour que les écoles soient en état d'accueillir les apprenants. Nous mettrons un point d'honneur à cela et c'est dans notre mandat. C'est un travail que nous faisons. Nous nous battons dans le cadre de ce plan stratégique national pour que nos écoles soient accueillantes, c'est-à-dire que les apprenants puissent être dans des conditions où l'école donne plaisir à apprendre. Parce qu'on a vu dans des zones où souvent les enfants ne vont pas à l'école, tout simplement parce qu'il n'y a pas de toilettes. Donc de plus en plus, dans notre mandat, dans le paquet minimum que nous mettons en place lorsque nous construisons des écoles, nous faisons attention à cela. Et dans le cadre de la situation où on a des compatriotes qui ont été obligés de loger dans ces écoles, avec les collectivités, nous allons travailler à rendre les écoles propres, à rendre les écoles saines, pour que la rentrée puisse être effective. Et ensemble, nous allons trouver des solutions pour que nos parents qui sont victimes de ces inondations puissent quand même trouver des sites où ils vont être logés afin que l'école puisse reprendre. Il y a aussi un paquet minimum d'actions qui relèvent des écoles, mais aussi des centres d'animation pédagogique et de la plupart des acteurs de l'école. C'est qu'à l'approche de la rentrée, nous donnons des tâches à chacun des acteurs. Et vous allez voir, des gens me disent, mais les écoles seront-elles désherbées à temps? Est-ce que les classes seront rendues propres d'ici là? Je dis oui, c'est un travail récurrent que nous faisons chaque année. Avant la rentrée, chaque directeur d'école connaît son mandat. Il sait ce qu'il a à faire pour que l'école soit habitable, soit fréquentable. Et je pense que sur cette question, nous serons au rendez-vous pour que le premier... chacun de nos enfants puisse aller à l'école.
D'accord. Merci. Aboubakar Abdou Atouré, vous êtes du syndicat des enseignants signateurs du 15 octobre. Est-ce que les enseignants sont en inquiets quant à, aux conditions sanitaires des écoles occupées par des sinistrés et des déplacés?
Bien sûr que c'est une inquiétude pour nous. Et pourquoi c'est une inquiétude? Parce que nous, c'est notre lieu de travail. Donc, du fait que c'est notre lieu de travail, effectivement, c'est très inquiétant parce que si des mesures ne sont pas prises avant la rentrée, et ça peut être vraiment une difficulté. Mais heureusement, le directeur national est là, il est en train de donner des explications comme quoi que toutes les mesures sont prises pour que la reprise soit effective, la rentrée plutôt soit effective. Donc, on peut être vraiment revu de cette situation parce que, bon, voilà, si les mesures sont prises et que, bon, voilà, les dispositions sont prises pour que vraiment le lieu soit assaini, propre pour nous accueillir, nous, nous serons très heureux de cela. Mais si toutefois les mesures ne sont pas prises, ça peut être vraiment une difficulté pour nous. Et là, en ce moment, nous, en tant que syndicat, nous pouvons agir aussi. Parce que si toutefois, on trouve que nos collègues, nos camarades ne sont pas dans les meilleures conditions de travail, et nous, c'est notre credo. L'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militants, ça c'est très clair, nous veillons à cela et que pour ça, en tant que partenaire, nous n'hésitons pas à saisir, n'est-ce pas, le ministère par rapport à cette mesure. Mmh. Mais d'ores et déjà, si tout, ils ont déjà garanti que bon, voilà, les dispositions sont prises, et je pense que bon, voilà, nous pouvons que observer et nous attendons le jour de la rentrée, le 1er octobre. Sinon, les enseignants, et ils sont prêts à servir parce que, comme je l'avais dit de par le passé, c'est notre métier, nous l'exerçons comme ça c'est devé.
Donc, la rentrée se tient au moment où la météo alerte sur des risques d'inondation encore jusqu'au mois de novembre 2024. Alors qu'on sait qu'il y a des écoles qui sont inondées, cela vous inquiète également cette rentrée au mois d'octobre, à un moment où des cas d'inondation sont annoncé par la météo?
Oui, c'est inquiétant parce qu'en réalité, comme on l'a dit, il y a certaines localités du Mali qui sont difficiles d'accès pour les enseignants. Et c'est les enseignants qui sont là-bas. Donc, c'est très normal que ça soit inquiétant pour nous. Et l'inquiétude, elle est là et c'est une réalité. Ce n'est caché pour personne qu'aujourd'hui, en réalité, ces écoles-là, il y a beaucoup de difficultés parce que même pas seulement le désherbage et autres, là, il y a des écoles qui, bon, voilà, en réalité, ont besoin même d'être réhabilitées. Parce que réellement, les salles, est-ce qu'elles sont, elles sont aptes à accueillir les gens comme ça c'est devait? Donc, tous ces aspects-là constituent une source d'inquiétude pour nous. Parce que, comme je l'avais dit, nous, notre credo, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Donc, si toutefois, les salles d'accueil ne sont pas vraiment des salles prêtes, là, ça peut constituer vraiment un problème pour nous. Donc vraiment, c'est une réalité que la météo a prévu et que vraiment, il faut aussi tenir compte de la météo parce que honnêtement, il y a des localités où les salles sont en banco. Les enseignants sont dans les villages les plus reculés du Mali, où des fois l'accès même est très difficile. Donc ces écoles-là, il faut veiller à tout ça pour que vraiment les enseignants puissent retrouver le chemin de l'école.
D'accord. Monsieur le directeur, vous avez dit que vous avez 20 000 écoles en charge pour les écoles fondamentales. Il y a également des écoles qui sont enfermées. Combien seront susceptibles d'être rouvertes cette année?
Okay. Merci pour la question. Avant de répondre à cette question, je souhaiterais quand même rebondir sur ce qu'il a dit. Je pense que nous sommes dans les changements climatiques. Et l'option, c'est de s'adapter aux changements climatiques. Ce n'est pas de les subir ou de fuir. Voilà. Donc nous avons des changements climatiques et les changements climatiques nous imposent de changer de posture, de comportement. Donc dans ce sens-là, il va falloir vivre avec les changements climatiques et trouver la solution. Et j'ai répété aussi que nous sommes tenus par ce que nous appelons le temps réel d'apprentissage. L'année scolaire, c'est un temps précis. Et même récemment, j'étais à une conférence où des parents d'élèves nous tapaient dessus en nous disant que bon, le mois de juin, par exemple, ne devrait pas être un mois d'examen, puisque juin fait partie de l'année scolaire. Donc nous sommes tenus par ces exigences-là, qui sont des exigences internationales. Et ces exigences font que nous avons des délais sans lesquels nous ne pouvons pas valider nos années scolaires. Nous sommes dans un processus où nous avons décidé, dans le cadre de l'UEMOA, d'avoir un bac communautaire. Et si vous vous renseignez, les pays voisins du Mali ont déjà repris le chemin de l'école. Donc nous n'avons plus le temps vraiment de repousser à cause des changements climatiques. Il faut qu'on s'adapte et qu'on trouve la solution. Donc je tenais à dire ça. Et nous avons les chiffres des écoles inondées. Et ces chiffres sont très mineurs par rapport aux écoles qui sont fonctionnelles. Parce qu'un État ne sait
pas. Mais que deviendront ces enfants de ces écoles inondées?
Mais de tout le temps, vous avez même des zones du Mali qu'on appelle des zones inondées, si vous prenez la région de Mopti. Mais dans ces zones-là, avec les partenaires, lorsque les inondations se produisent, nous trouvons des solutions.
Mm-hmm. Quelles sont ces solutions-là?
On a des abris temporaires qu'on pourrait faire le temps que l'eau baisse. C'est des cas que je donne. Donc avec nos partenaires, il arrive même qu'au niveau de l'école, si certaines classes sont défectueuses, que dans des zones beaucoup plus sécures, on puisse vraiment trouver des abris où les enfants peuvent reprendre l'école. L'école n'attend pas. L'école n'attend pas. Nous avons un temps. Si vous dites qu'il va pleuvoir jusqu'au 15 novembre, vous allez faire la rentrée quand?
D'accord.
Je n'ai pas fini. Hein. Vous allez faire la rentrée quand? Donc, il faut, lorsque vous êtes l'État, vous mettez un certain nombre de paramètres ensemble pour faire des choix. Ce ne sont pas des choix fortuits que nous faisons comme ça. Nous avons les informations du terrain, nous avons la réalité du terrain. Et nous savons que dans les zones où nous avons des difficultés, ensemble avec nos partenaires, quand je dis partenaires, il s'agit de tous les partenaires, autant les parents d'élèves, les collectivités, les communautés que les syndicats, nous mettons ensemble pour trouver des solutions.
D'accord. Nous sommes pris un peu par le temps.
Je voulais parler des écoles.
Vous allez répondre aux écoles qui sont fermées.
Les écoles fermées. Les écoles fermées, je vous ai dit par exemple au fondamental, vous avez plus de 20 000 écoles. Sur 20 000 écoles, selon les chiffres que vous donnez, moi je suis le président du cluster éducation, qui est une organisation qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans l'éducation. Nous avons 1620 écoles fermées en juin, sur 20 000 écoles. C'est une goutte d'eau. Ce n'est pas pour minimiser ça, non, mais c'est pour dire que nous travaillons. Nous avons eu des périodes où nous avions 1900 écoles fermées. Et nous faisons un travail fou avec nos collègues pour que l'école...
Ce chiffre que vous avancez a été augmenté un peu plus tard,
non,
selon l'UNICEF.
Non, je parle, l'acteur principal dans ce domaine, c'est quand même le ministère de l'Éducation et le cluster éducation, dont je suis le président, et la coordination est assurée par l'UNICEF et Save the Children. Donc les chiffres que je vous donne sont les chiffres à l'endroit. Donc il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Nous avons, je ne veux pas faire de comparaison, mais nous faisons un travail fou pour que ce nombre baisse. Nous le faisons comment ? Dans le cadre du dialogue et de la sensibilisation des communautés. On ne pourra pas ouvrir les écoles en mettant devant chaque école un militaire ou des militaires. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire quand les gens parlent d'école fermée, les gens pensent qu'il s'agit tout simplement de décider et vous ouvrez l'école. Mmh. Souvent, vous avez des communautés dans lesquelles il faut parler aux communautés. Il faut sensibiliser les communautés. Il faut même parler aux belligérants. Et aujourd'hui, nous avons dans le pipe le projet de faire adopter une loi sur la sécurité à l'école. Donc nous travaillons à tout cela et nous sommes sensibles à ces questions. Mais vous avez des zones dans lesquelles, aujourd'hui, même lorsque vous décidez d'ouvrir l'école, les communautés se déplacent parce que la peur est là, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Mais tout cela se règle par le dialogue, par des rencontres communautaires et par des compromis dynamiques. On se met d'accord que l'école est...
Il nous reste 5 minutes, okay, donc on va essayer de faire le tour de table. Comment vous comprenez que 1600 écoles restent encore fermées pendant que le Mali est en train d'occuper certaines zones qui n'étaient pas sous son contrôle depuis plus d'une décennie, que des zones qui étaient sous son contrôle continuent à échapper, à augmenter les écoles fermées?
Bon, je crois que, honnêtement, nous devons tous admettre qu'il y a quand même une amélioration. Hein. Ça... Qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître quand même que ce n'est plus comme avant. Donc, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que tout va être réglé. Hein. Il faut laisser le temps au temps. Parce que les militaires, l'armée est en train de remplir son contrat. Les populations, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, doivent aussi être sensibilisées. Parce qu'il n'y a pas que l'armée qui puisse, ce n'est pas uniquement l'armée qui va remettre tout cela sur les rails. Hein. Comme il l'a dit tout à l'heure, comment vous comprenez que des populations où on veut faire revenir l'école, ces populations même quittent la localité? Est-ce que ça, c'est du fait de l'armée? L'armée veut amener la sécurité. Et fort de ça, on dit, bon, nous allons rouvrir vos écoles. Mais c'est eux, au contraire, qui fuient maintenant leur localité. Vous voyez que c'est complexe. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et comme il l'a dit, ce n'est pas en mettant des militaires devant chaque école qu'on va pouvoir ouvrir. Tant qu'il n'y a pas la quiétude là, hein, des populations, la quiétude pour les enfants, qu'ils peuvent venir à l'école sans danger.
Dans certaines zones où il y a quand même des populations qui sont restées, également des services étatiques ou autres qui sont restés, mais les enseignants sont absents.
Vous pouvez nous en citer quelques-unes
notamment au nord et au centre du pays.
Nord, c'est pas une localité précise.
Non, mais monsieur Maïga, je ne vous suis pas dans votre raisonnement. Mon voisin de droite, monsieur Touré, a clairement dit qu'il y a des avancées. Je vous ai dit qu'il y avait une période où on avait 1900 et quelques écoles fermées.
Oui,
s'il vous plaît, donc laissez-moi développer cet aspect. Donc, nous avons fait des efforts. Et dans ce cadre, nous avons mis même en place un comité pour le retour de la sécurité à l'école, qui est un comité dirigé par le ministère de
l'Éducation. Pendant ce temps, il y a également trois enseignants qui sont assassinés par des hommes armés dans des zones où l'État existe, où l'armée existe.
Vous savez, je
panique comme ça.
Voilà, je ne pense pas.
Presse, vous avez
Vraiment,
c'est une façon de faire comprendre les dispositions prises.
Non, les dispositions
pour la sécurité des enseignants.
C'est ce que nous disons. C'est que la sécurité globalement est en train de revenir dans notre pays.
Progressivement.
Et la sécurité à 100% n'existe même pas. Si vous prenez le nombre de personnes tuées à New York par jour, c'est supérieur au nombre de personnes qui sont tuées à Bamako par jour. Donc vraiment, on ne peut pas nous donner de leçons sur ces questions-là. Ce que nous disons et qui est ferme, c'est que nous travaillons avec les communautés. Souvent, dans certains villages, on veut même reprendre l'école. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Et pour lutter contre la peur, il faut éduquer les gens.
On va donner la parole à l'enseignant. Il nous reste une minute. Comment le corps enseignant a-t-il réagi à l'assassinat de ses trois collègues?
C'est une situation vraiment dramatique. C'est une situation encore... horrible et déplorable. Parce que s'attaquer à des gens qui éclairent, à des gens qui donnent la lumière pour sortir de l'obscurantisme, pour sortir de la barbarie, et un enseignant sans armes ni rien, s'attaquer à lui, je pense que vraiment c'est énorme.
Est-ce que vous estimez que des dispositions sont prises pour permettre aux enseignants d'enseigner dans la quiétude?
Pas nous estimons. Nous demandons que des dispositions soient prises pour vraiment mettre les enseignants en sécurité. Parce qu'en réalité, c'est des hommes sans armes ni rien. Leur arme, c'est la craie. Donc, du coup, nous, ce que nous demandons, c'est vraiment sécuriser les enseignants afin qu'ils puissent bien exercer leur métier d'enseignement. Qui consiste, n'est-ce pas? Parce que la question, pourquoi s'attaquer à l'enseignant? L'enseignant n'est pas militaire, mais pourquoi s'attaquer? Donc ça veut dire beaucoup de choses et sur ça, nous interpellons les autorités à ce qu'elles prennent vraiment les mesures nécessaires.
Malgré que le temps imparti est arrivé à terme, nous allons donner donner le dernier mot au directeur pour nous dire quelles garanties est prise pour la sécurité des enseignants et des élèves.
L'État prendra toutes les dispositions et je pense que des dispositions sont prises pour que la sécurité soit assurée sur toute l'étendue du territoire. Et pour nous, la sécurité des enseignants est vitale. Nous nous battons pour ça. Nous disons que nous venons de très loin. Il y a cela quelques années, la situation de notre pays était beaucoup plus pénible et difficile que ça. Nous demandons un peu de compréhension, un peu d'indulgence, mais nous travaillons avec le niveau sécuritaire pour que tous les enseignants puissent être en sécurité et que l'école puisse ouvrir dans des zones sûres. Nous ne mettrons aucun enseignant en danger.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les dispositions prises pour la rentrée scolaire 2024-2025. Et nous étions avec Issoufi Touré, directeur national de l'enseignement fondamental, Aboubakar Abdou Touré, membre de la synergie de l'éducation des syndicats signataires du 15 octobre 2016, Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Mali. À la présentation, c'était Imrana Kilomaïga. À la régie vidéo, Ibrahima Sanogo. À la mise en onde, Philly Dambélé. Merci d'avoir suivi ce débat. À demain pour un autre débat.